marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine aux attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et du 13 novembre 2005 à Paris. Deux événements extraordinaires dont la déflagration a percuté les vies de milliers d'êtres humains. Mais au-delà des dates qui font l'histoire, j'ai voulu donner la parole à des femmes et à des hommes dont la vie a basculé à l'époque. Michel Zoukov, parce qu'il était rédacteur au Boston Globe. Marc Trévidic, parce qu'il était juge au parquet antiterroriste. Anne-Marie Capomaccio et Toufik Benaïchouch, journaliste à RFI, parce qu'ils étaient à New York. Mais aussi Christian Delage, historien et cinéaste, parce qu'il a voulu filmer les rescapés des attentats de Paris. Et enfin Thibaut Morgan, fan de musique, parce qu'il était avec l'amour de sa vie au Bataclan. 11 septembre, 13 novembre, des vies plus jamais ordinaires. C'est un nouvel épisode documentaire de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Michael Goncalves.
Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
D'une des fenêtres de mon immeuble, j'ai l'impression que c'est genre la tour infernale, le truc. On voit vraiment la fumée qui s'échappe à gros morceaux du truc, quoi.
Il y a une panique indescriptible, comme vous pouvez l'imaginer. On nous a demandé de descendre d'abord dans les sous-sols, et maintenant il faut absolument que tout le personnel évacue le building de l'ONU, parce qu'ils craignent un attentat.
Le FBI donc a confirmé qu'il s'agissait bien d'une attaque terroriste et non pas d'accident.
Que s'est-il passé le 11 septembre 2001 et comment le raconter du point de vue de celles et ceux qui l'ont vécu? C'est une question essentielle pour le journaliste et écrivain Michel Zoukov. Il livre un récit de 500 pages pour faire entendre la voix des disparus, témoins et sauveteurs, tout en retraçant minutieusement les faits, minute par minute. Et d'ailleurs, le 11 septembre 2001, au matin, Michel n'est pas à la rédaction du Boston Globe, car il avait pris un congé pour écrire.
For me, it was a normal day, like all of us. I was at home working on a book, and when I saw the first plane hit the North Tower of the World Trade Center, I thought, like most of us, it was an accident. It was a.
C'était un jour comme les autres. J'étais chez moi, je travaillais sur mon livre, et quand j'ai vu le premier avion percuter le tour nord du World Trade Center, j'ai pensé, comme la plupart d'entre nous, c'est un accident. Le pilote s'est perdu. C'est une terrible tragédie.
When I saw the second plane hit the South Tower, flight 175.
Quand j'ai vu le deuxième avion s'encastrer dans le tour sud, là c'était le vol 175.
I ran to the telephone to call my office.
Je me suis précipité sur le téléphone pour appeler le journal.
J'étais
à l'époque reporter pour le Boston Globe. Mais avant même que j'atteigne le téléphone, il s'en est déjà. C'était le rédacteur chef de l'édition nationale. Il m'a dit, c'est fini le congé pour ton livre. Tu rappliques immédiatement.
Fighting against our own emotions to do the work that we needed to do. I knew that one of my colleagues, David Filipov, his father,
il fallait affronter nos propres émotions dans la salle de rédaction. Je savais que le père de l'un de mes collègues, David Filipov, était dans le premier avion, le vol American Airlines 11.
We knew that there would be neighbors because two of the planes.
Nous savions que les passagers étaient nos propres voisins parce que les deux avions avaient décollé de Boston.
We had to battle our own emotions. We had to battle our own fears.
Donc, il nous fallait combattre nos propres émotions. Il nous fallait combattre nos propres peurs.
La peur n'est pas un sentiment familier pour le juge Marc Trévidic. Lorsqu'il est nommé juge d'instruction au pôle antiterroriste en 2000, ils ne sont que quatre dans le service. Aujourd'hui, ils sont 26. À l'époque, l'islam radical n'intéresse personne. Le sujet, c'est plutôt les Corses ou le Théa. Trévidic veut comprendre. Pour s'attaquer au réseau islamiste, il s'immerge dans l'univers de leur propagande. Internet n'existe pas. Il faut lire pour comprendre la cause défendue par les idéologues du djihad. Les candidats partent se former à Londres, quelques-uns dans les camps en Afghanistan. Trévidic les suit. Il sait que les cellules dormantes sont prêtes à agir. Mais quand et où ?
Le 11 septembre 2001, j'étais procureur antiterroriste, donc j'étais dans un petit parquet antiterroriste de 4 personnes à l'époque, et je m'occupais de l'islam radical. Donc j'étais à mon bureau, mais c'est une greffière, c'est même pas un coup de téléphone de la DST à l'époque, c'est une greffière qui est venue me dire, écoutez à la radio ce qui se passe, parce qu'on n'avait pas de télé en bas. Et j'ai commencé à écouter, enfin c'était sidérant. On s'est tous réunis et puis on est monté dans les bureaux des services du procureur où il y avait un écran pour voir des images. Après, il y a eu une réunion avec la DST sur les menaces en France potentielles, puisque personne ne savait ce qui allait arriver. On pouvait avoir la même chose en France, des avions dans le ciel qui pouvaient arriver sur la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, personne n'en savait rien.
D'autant que c'est un projet que vous aviez connu.
Oui, tout à fait, puisque le dernier numéro d'Alansar du GIA, la première page, c'était un avion qui s'écrase sur la Tour Eiffel, une tour qui explose. Un numéro qui n'est jamais paru, mais qui a été saisi à Londres. Et c'était un projet qu'ils avaient depuis longtemps, puisqu'en fait, le détournement d'avion à Marignane, vous vous souvenez, 24 décembre 1994, maintenant on sait que cet avion, ils espéraient le balancer sur la Tour Eiffel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne voulait surtout pas qu'il redécolle de Marseille, ils voulaient faire le plein. Voilà, pour la petite histoire. Donc c'est quelque chose qu'ils avaient déjà en tête concernant la France.
Alors vous pensez, Marc Trévidic, à Al-Qaïda, hein, c'est votre dossier. Et en même temps, sur le moment, vous ne pouvez pas l'admettre. Pourquoi ?
Parce que c'est trop sophistiqué, c'est trop intelligent. On ne les mettait pas à ce niveau-là, si vous voulez. Prévoir longtemps à l'avance, 2 ans à l'avance, de détourner des avions, investir de l'argent pour former des pilotes, faire des équipes de soutien dans l'avion, etc. Tout était très, très bien fait. Bien regarder les horaires pour que les avions qui décollent pas trop tard les uns par rapport aux autres, parce que sinon, la nouvelle va se savoir. Hein. Bon, c'est sûr que si vous prenez un avion, les avions vont être bloqués au sol. Enfin, ils avaient imaginé tout ça. Hein. Donc, c'était très, très bien coordonné, très bien fait. Et ça, je ne pensais pas qu'ils avaient ce niveau.
L'ambiance ici est vraiment à la tension. Les gens ont des visages fermés, tendus. Tout le monde est sur les trottoirs.
C'est l'angoisse.
People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to save themselves. I don't know.
Je suis actuellement à 300 mètres du World Trade Center. Le ciel est entièrement caché par un gros nuage noir.
Okay, I had to go find people who need help. I don't think I'm one of them. You okay, sir? Okay. Can I just get a toot off your respirator? Can I get a toot? I'm just getting a couple of clean breaths.
Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America.
I don't think anyone realistically could say, outside of a very small number of anti-terrorist experts.
Je pense que personne n'aurait pu sérieusement affirmer, en dehors du cadre restreint des experts du terrorisme, que des pirates puissent prendre en otage un avion, le piloter et le transformer en bombe suicide. Moi, je n'aurais jamais pu l'imaginer.
Alors effectivement, le 11 septembre, c'était il y a déjà 20 ans. J'aimerais savoir pour quelles raisons, Marc Trévidic, vous avez accepté de préfacer le livre du journaliste américain Michel Zoukoff. C'est un livre intitulé en français « Le jour où les anges ont pleuré ».
J'ai été très touché par la façon, alors c'est un travail remarquable, parce que c'est un énorme travail de reconstituer, j'allais dire minute par minute ce qui se passe, mais j'ai été très touché par la façon dont il a nous faire revivre les victimes, particulièrement. Pas globalement, on peut faire plein de discours sur les victimes, mais là vraiment, on les prend, on voit leur vie, on voit leur univers, on voit ce qu'elles ont fait pendant le 11 septembre. Et si vous voulez, j'avais eu cette même sensation en voyant le film Des dieux et des hommes pour les moines de Tibérine. C'est pas seulement parler des victimes, c'est elles deviennent vivantes de nouveau. Et là, j'ai la même sensation avec Zoukoff. Donc ça m'a ému. Et en plus, c'est le sujet du 11 septembre 2001. J'allais dire que moi aussi, je suis né à l'antiterrorisme vraiment ce jour-là. Une certaine nostalgie quand même. Et donc, ça a été deux bonnes raisons de préfacer ce livre.
Alors effectivement, c'est un récit infiniment humain, incarné par de nombreux personnages, que ce soit dans l'avion détourné, avec l'hôtesse de l'air qui prévient la compagnie aérienne du détournement de son vol, évidemment les passagers, dans le hall de l'aéroport, les familles américaines dont les enfants ou les parents sont dans l'avion, mais aussi à la Maison Blanche, au sein du FBI, dans les tours même du World Trade Center. Alors, c'est foisonnant, évidemment, mais d'un seul coup, c'est plus de 3000 personnes à qui on redonne une identité, une dignité, une histoire, un parcours. Est-ce qu'il y a des personnages dans cette enquête minutieuse de Michel Zoukov qui vous ont particulièrement marqué, dont vous auriez envie de nous parler, Marc?
Alors moi, je sais qu'il y a Dave Tarantino. Là, c'est le courage, quoi. Hein. C'est risquer pour sauver les autres, risquer sa vie, etc.
Racontez-nous.
Alors, Dave Tarantino, il y a tellement de personnages, vous avouerez que ce n'est pas tellement évident. Il est, lui, au Pentagone, de mémoire. Et puis, il va essayer de sauver un collègue, notamment, qui est complètement écrasé sous une masse de débris, de gravats. Alors, avec toute sa force, il va réussir à le soulever et à le sauver. Et ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est qu'il avait eu un grave accident de parachutisme. Il s'était brisé les jambes des années avant. Donc, il était revenu à la force du poignet, à être autonome physiquement. Et donc, il avait montré un très grand courage dans sa vie, d'une manière générale. Et ça symbolise bien le fait que des terroristes vont briser des vies de gens admirables par moment. Vous voyez, pas tous, hein, faut pas croire que tous les gens sont admirables dans les tours ou dans les avions ou au Pentagone. Mais il y a quelques parcours extraordinaires. Et ça fait toujours mal au cœur de voir des gens qui se permettent de tuer des gens qui valent nettement mieux qu'eux. Si je pouvais faire un peu ce symbole.
C'est absolument bouleversant. Et vous avez une phrase extrêmement percutante. Et on peut même être surpris parce que... et d'ailleurs, vous le dites dans cette préface, « Revenons à l'essentiel, 20 ans après ». Et vous avez cette phrase, vous dites... vous critiquez justement ce que signifie mourir pour donner la mort et mourir pour sauver des vies. J'aimerais entendre cette phrase dans votre voix parce que je la trouve extrêmement touchante.
Oui, la leçon qu'on peut tirer du 11 septembre, c'est que c'est complètement absurde de vouloir mourir pour tuer les autres, alors que ce qu'il y a de plus beau, finalement, c'est quand même le sacrifice de ceux qui acceptent de mourir pour sauver des vies. La vie a une valeur que si on s'en sert à bon escient, c'est tout. Et vous savez, il y a un côté mortifère tout à fait dans le terrorisme, de plus en plus, avec les attentats kamikazes. C'est vraiment mourir pour donner la mort. C'est absurde. C'est un peu comme si on était représentant de la déesse Kali, si vous voulez, sur Terre. On se souvient de cette secte qui tuait pour tuer, en l'honneur de la déesse de la mort. Vous imaginez ? Où voulez-vous que ça amène l'humanité? Quel est le projet qui propose aux jeunes? Je ne comprends même pas comment des jeunes peuvent tomber dans le panneau alors qu'on leur offre que la mort et qu'une vie de destruction, qu'une absence totale d'avenir.
Vingt ans après le 11 septembre 2001, Michel Zoukov, votre enquête est publiée en français aux éditions Flammarion. Elle est intitulée « Le jour où les anges ont pleuré ». J'aimerais que l'on revienne sur le principe qui a guidé votre récit.
My fear over these past 20 years was that the story would be reduced to numerals, to numbers. But, you know, 19 hijackers, 2 towers, 4 planes, and that's not a way for people to feel what we felt.
Mon angoisse personnelle durant ces 20 dernières années était que cette histoire soit réduite à des chiffres. 19 terroristes, 2 tours, 4 avions. Ce n'est pas ainsi que les gens peuvent ressentir ce que nous avons vécu l'11 septembre. Savoir qui a été touché, connaître l'histoire de chaque individu.
My approach was to try to tell the whole story of all the events that were happening that day.
Donc, j'ai voulu raconter l'ensemble de l'histoire, de tous les événements qui se sont produits ce jour-là, à travers les individus qui incarnent à la fois leur propre destin, mais aussi parce qu'ils représentent tous ceux qui étaient dans l'avion. Beaucoup de gens ont essayé de s'échapper des tours.
Or someone who is going to act heroically at the Pentagon.
Et puis, il y a ceux dont l'action s'est révélée héroïque au Pentagone.
It was important for me to include the terrorists as well as the victims, but it was important not to in any way lionize or aggrandize these terrorists, these members of Al-Qaeda.
Il était important pour moi d'inclure les terroristes tout autant que des victimes. Mais il était important de ne pas les transformer en héros, ces terroristes, ces membres d'Al-Qaïda qui sont des assassins. Dans les quatre groupes terroristes qui ont pris la main sur ces avions, on distingue deux catégories. Il y a d'abord les quatre leaders, ceux qui vont prendre les commandes des avions jusqu'à la mort.
And then there were the 15 members who were, we called them the muscle. Their job was to intimidate or to commit violence on the passengers inside the plane.
Et puis, il y a les 15 autres membres, on les appelle les muscles. Leur travail, c'était d'intimider ou d'être violent avec les passagers du vol.
And so, each of them were operating under a completely misguided sense of their religion.
Et donc, chacun d'entre eux opère avec une interprétation totalement dévoyée et perturbée de la religion en ce qui concerne leur rôle. Et ils avaient rédigé une lettre. Les enquêteurs en ont retrouvé plusieurs exemplaires et chacun des groupes avait une copie de cette lettre en sa possession. C'était leur feuille de route, minute par minute. Comment ils devaient réagir face à quiconque tentait de les stopper, et également quelle prière ils devaient prononcer au moment où les terroristes lanceraient les avions contre leur cible. Donc, cette dernière lettre est un document remarquable sur le terrorisme.
Le premier vol décolle de Boston à 7h59. Sur les 5 terroristes, 4 sont saoudiens. À l'époque, il est possible d'embarquer avec des couteaux dont les lames ne dépassent pas 10 cm. Ce sera suffisant pour assassiner le pilote John Ogunowski dès que l'avion atteindra sa vitesse de croisière. C'est alors que le cinquième terroriste prend les commandes de l'avion. Il s'appelle Mohamed Atta, il est égyptien. C'est ensuite au tour du deuxième avion de décoller, le United Airlines 175. L'hôtesse numéro 3, Betty Young, signale le détournement du vol à 8h19.
Betty Young is a flight attendant on flight American Airlines flight 11, and she got on the phone from the back of the plane.
Betty Young est une hôtesse de l'air du vol American Airlines 11. Elle a pu utiliser le téléphone situé à l'arrière de l'avion pour décrire avec force détail ce qui se déroulait exactement sous ses yeux. Le détournement de l'avion par les terroristes et chacun de leurs gestes. Betty Young a montré un extrême courage. Elle parlait posément. Les premières minutes de sa conversation ont été enregistrées sur une cassette qui est conservée au bureau de sa compagnie à Boston. Mais je voulais en raconter beaucoup plus. Comme vous l'avez souligné, Valérie, c'est très important. À ce moment-là, Betty Young est une héroïne accomplissant son travail de la meilleure façon que l'on puisse imaginer. Mais elle était également une personne dont la vie existait au dehors.
I'm grateful that her sister, her brother, friends of hers told me stories about her.
Et donc, je suis très reconnaissante à sa sœur, à son frère, à ses amis de m'avoir autant raconté son histoire. Elle était une femme avec des espoirs et des rêves, quelqu'un qui accompagnait ses voisins âgés chez le médecin, quelqu'un qui avait de l'affection pour les enfants de son quartier. Betty Young est une femme dont nous devons connaître le nom et dont nous devons connaître l'histoire.
And so, when the hijacking began on flight 93 and people called their loved ones from the plane, their loved ones were able to tell them wait, this is not a normal hijacking. Something is happening. Two planes have been flown into the Trade Center. One plane has been flown into the Pentagon.
Donc, lorsque le détournement du vol 93 a commencé, les passagers ont téléphoné à leurs proches et leurs proches leur ont expliqué tout ce qu'ils savaient. Ce n'est pas un détournement d'avion classique. Deux avions ont atterri dans le World Trade Center et un autre dans le Pentagon. Le prochain, c'est vous. Et c'est ainsi que les 40 passagers du vol 93 et leur équipage ont décidé de voter. Et ils ont voté pour passer à l'action.
And we know that they turned from strangers into a strike force. They formed a column.
Et ces inconnus se sont unis pour former une force de frappe. Ils se sont mis en ordre de marche pour aller reprendre le contrôle de l'avion. Nous le savons grâce aux appels téléphoniques et nous le savons aussi grâce à la boîte d'enregistrement dans le cockpit. Et ils se sont battus contre les pirates de l'air et ils ont réussi à défoncer le cockpit.
Countless lives were saved because of this. Their target was either the US.
Lorsque les terroristes ont décidé du crash de l'avion, d'innombrables vies ont été sauvées parce que la cible, c'était le Capitole ou la Maison-Blanche. Et on imagine ce que ça aurait été en termes de tragédie humaine et en termes d'image. Ils se sont sacrifiés. Ils ont tenté de sauver leur propre vie et ils ont sauvé un nombre incalculable de vies grâce à leur héroïsme.
They were the first battle in the fight against terrorism for the United States after 9/11.
Ils incarnent la première bataille dans le combat contre le terrorisme après septembre 2001.
Il n'y a pas un Américain, pas un New-Yorkais évidemment, qui n'est pas capable de vous raconter ce qu'il faisait exactement le 11 septembre 2001. Et lorsqu'on est français comme moi, j'ai passé ensuite 4 ans aux États-Unis entre 2013 et 2017. Si dans la conversation, le sujet arrive et qu'on sait que vous étiez là au moment des attentats, vous faites partie de la famille.
Et la famille, pour Anne-Marie Capomaccio, c'est sacré. Fraîchement débarquée à New York lors de l'été 2001, elle héberge son collègue et ami de RFI, Toufik Benaïchouche, aujourd'hui disparu. Elle est encore en vacances alors que lui doit partir à Boston en reportage. Tous les deux sont journalistes, récit précis d'un duo tout-terrain.
Ce jour-là, et nous sommes à la maison, il est 8h30 et je fais du café. En gros, le temps est superbe, mes enfants sont partis à l'école et je suis là, en effet, pour l'instant, en vacances. Donc ça bascule en fait en deux appels. Premier appel d'Henri Périllou vers 9h moins le quart, le directeur de la rédaction de l'époque, qui me dit « un avion a percuté une des tours jumelles ». Mais à ce moment-là, à 9h moins le quart, nous pensons que c'est un accident. Bon, je raccroche, j'appelle quand même Toufik. Et par précaution, on est journaliste, hein, je vérifie le sac de reportage. Est-ce que le sac de reportage est prêt? On ne sait jamais. Et deuxième appel, un quart d'heure plus tard, et là la conversation dure 40 secondes. Ce n'est pas un accident, c'est un attentat, ce n'est pas une tour, ce sont deux tours, et vous filez. Donc là on raccroche, on attrape les sacs et on descend. On a attrapé un taxi immédiatement et on a filé vers le sud de Manhattan. En fait, Manhattan est déjà bloqué. Oui. Il doit être 9h15, donc c'est bloqué d'est en ouest à la 14e rue. Donc le taxi nous laisse là et on saute du taxi et on commence la lente descente vers les tours jumelles. À ce moment-là, nous n'avons toujours pas vu ce qui s'est passé. Nous ne savons pas.
Quelle est l'ambiance dans la rue?
Ce qui s'est passé. Alors là, dès qu'on arrive à la 14e rue, on s'aperçoit que les gens montent en sens inverse. Nous descendons vers le sud de Manhattan et on s'aperçoit que les forces de l'ordre vident les maisons et les appartements et disent aux gens, sortez, vous sortez au-delà de la 14e rue, vous remontez vers le nord de Manhattan. Et c'est à ce moment-là que nous voyons les images dans une vitrine, dans une télévision. Et là, c'est la stupéfaction. Enfin, c'est le choc, comme pour tout le monde, évidemment. Et donc, on accélère tout de suite pour continuer à descendre. Et on a À ce moment-là, encore deux derniers appels téléphoniques. Plus tard, le téléphone sera coupé, mais tout de suite, on a encore deux appels téléphoniques. On a un premier appel de la correspondante à Washington, pendant que nous marchons, Anne Toulouse, qui nous dit qu'un avion s'est écrasé sur le Pentagone et que ce n'est pas un accident. Donc, trois attentats. Là, on comprend que c'est la guerre, tout de suite. Et on continue à avancer. Dernier appel, le chef du service international de l'époque de RFI, Richard Labévière, qui nous dit tout de suite... Je crois que c'est Oussama Ben Laden. Et alors que les New-Yorkais, dans la rue, ceux qui sortent, puisque il n'y a plus de voiture, hein, tout le monde est à pied, tout le monde remonte vers le nord de Manhattan, les gens disent « ce sont les Palestiniens nous ont attaqués ».
À l'époque, Anne-Marie Capomaccio, il faut bien se rappeler, on est en 2001, Oussama Ben Laden, ça parle à qui ?
Oussama Ben Laden, ça ne parle à personne, à part à quelques chercheurs et quelques journalistes. Nous sommes la rédaction de RFI, donc nous savons qu'Oussama Ben Laden a été accusé d'avoir perpétré les attentats de Dar es Salaam, Nairobi, ça c'est 98 il me semble, et l'USS Cole c'est en 2000. Donc on connaît ce nom. Mais on n'a pas d'analyse. J'aurais été incapable, le 11 septembre 2001, de vous faire un portrait d'Oussama Ben Laden. Je sais que c'est un terroriste, c'est un nom de terroriste parmi d'autres, avec ces attentats-là, en Afrique. Donc nous savons ça parce que nous avons couvert ça à RFI. C'est tout. Les New-Yorkais, Oussama Ben Laden, personne ne sait qui c'est. Ce qu'il faut souligner, Valérie, le souvenir que j'en ai, c'est la discipline, le calme, des New-Yorkais qui remontent dans le nord de Manhattan parce qu'on leur a dit qu'il y avait des attentats et qu'il fallait qu'ils vident le sud de Manhattan. Personne ne se rebelle, personne ne crie, personne ne rouspète. Les gens descendent de chez eux avec un baluchon et marchent les premiers kilomètres.
Anne-Marie Capomaccio, journaliste à RFI.
Et là, nous n'avons plus le téléphone. Donc nous ne parlons à personne, hein. On est à marche forcée et plus nous descendons, plus les gens remontent, plus la foule se densifie. Et nous sommes pressés d'arriver le plus vite possible à l'endroit où ça s'est passé. Et là, il doit être au moins 10h15, 10h30. On a senti un tremblement et nous nous sommes même demandé à la secousse si c'était un tremblement de terre. On n'a toujours rien vu à ce moment-là et c'est la deuxième tour qui s'effondre. C'est la tour nord qui s'effondre en fait. Et donc là, nous sommes arrivés quasiment au point d'impact. Et là, c'est un autre spectacle, une autre scène. Les tours se sont effondrées, il y a de la fumée, de la suie. On est dans le noir total. Donc là, on arrive dans une scène de guerre, dans une scène de chaos. Et ce que nous voyons, sont des débris, des blocs de béton partout, des gens qui pleurent, des gens, alors toutes les réactions, toute la palette de réactions, des gens qui hurlent, des gens qui sont blessés, des gens qui sont complètement hagards, prostrés dans les coins, et énormément de gens qui cherchent quelqu'un d'autre. Des gens qui vous disent je cherche la personne qui travaille avec moi, je cherche mon mari, je cherche ma sœur, je cherche X, je cherche Y. C'est difficile à raconter. Et tout ça dans la fumée, dans le noir. Et c'est le bruit, le sens qui me reste, c'est le bruit. C'est le bruit des sirènes de pompiers, des hurlements des gens, le fracas, c'est la guerre. Et le 12 septembre, en effet... On est revenu à Ground Zero pour voir, pour faire du reportage, etc. C'est après, quand on est allé dans les autres quartiers de New York, qu'on s'est aperçu que les New-Yorkais disaient « il faut qu'on se venge ». C'est compréhensible. Et ce sont les Arabes qui nous ont fait ça, mais pas Ben Laden. Mais il faut savoir qu'il y a eu des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'Américains qui sont allés s'engager dans l'armée au lendemain des attentats du 11 septembre. Énormément. Ce sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les vétérans de la guerre d'Afghanistan et par la suite de la guerre d'Irak. Mais les Américains se ruent sur les bureaux d'enrôlement dans l'armée dès le 12 septembre.
Anne-Marie Capomaccio, qu'est-ce que ça représente dans votre vie de journaliste d'avoir couvert, malgré vous, cet événement, presque, j'allais dire?
En fait, ça ne reste pas dans ma vie comme un événement journalistique. Autant les reportages que j'ai faits ailleurs... Ça reste un événement journalistique et des choses dont on peut parler entre collègues. Le 11 septembre reste un événement personnel.
Vous êtes bien sur RFI. Nous écoutons les récits de celles et ceux qui ont vécu les attentats du 11 septembre 2001 à New York, mais aussi du 13 novembre 2015 à Paris. Au moment où se tient le procès, à Paris, 130 personnes ont trouvé la mort. Plusieurs centaines ont été blessées et pour les rescapés et leurs proches, la vie ne sera plus jamais ordinaire. Mais chaque itinéraire de reconstruction est singulier, comme le montre la collecte des 20 témoignages recueillis par l'Institut du Temps Présent, à laquelle la Marche du Monde s'est associée. Avec des urgentistes, des policiers, des rescapés, des liens se sont tissés et j'ai proposé à Thibaut Morgan, rescapé du Bataclan, de prendre à nouveau la parole avant d'aller témoigner au procès.
Eh bien, je m'appelle Thibaut, j'avais 32 ans au moment des faits. Enfin, je me suis obligé de préciser l'âge de l'époque parce que ça me paraît une éternité. Et donc, je travaille comme juriste en Île-de-France et je vis en Île-de-France. Je suis passionné de musique, entre autres choses, mais je suis passionné de musique et de concerts.
Thibaut Morgan s'est porté partie civile à titre personnel, mais également dans le cadre de l'association des victimes 13-11-15, dans laquelle il a choisi de s'investir bénévolement. Devenu membre du conseil d'administration, il s'engage au nom de la fraternité et de la liberté.
Dès le mois de janvier 2015, les attaques de janvier 2015 ont été tellement choquantes, mais je me souviens que ça m'avait fait vraiment bouleverser.
Charlie Hebdo,
l'hypercachère et les policiers assassinés, puis toutes les personnes qui ont été assassinées. C'était vraiment tellement, tellement choquant que, c'est un sujet qui m'a... Je me suis senti obligé de m'y intéresser, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui explique que des gens qui sont nés en France, qui ont grandi à Paris, partent au Yémen, partent en Syrie et prennent les armes pour revenir ensuite assassiner des gens qui leur ont rien fait, quoi. Tuer des gens parce qu'ils sont juifs, tuer des gens parce qu'ils sont journalistes ou policiers. Enfin, moi, ça me paraissait incompréhensible. Donc, je m'étais déjà beaucoup intéressé au sujet. Et puis, à la suite des attaques de novembre 2015, même chose, quoi. Enfin, c'est comprendre le profil des personnes qui ont fait ça et surtout la logistique des attaques. Parce qu'en fait, spontanément, on a l'impression que on pourrait penser que quelqu'un prend une Kalachnikov et puis vient commettre un massacre. Mais en fait, on se rend compte que c'est infiniment plus complexe que cela. La date du 13 novembre, elle a été arrêtée par l'État islamique, par les gros bonnets de l'État islamique, au printemps 2015. C'est pas seulement des types qui un jour trouvent des armes et se disent « on a des armes, c'est parti, on attaque ». C'est pas seulement ça, rien n'a été laissé au hasard et il y avait un agenda.
Thibaut, vous avez choisi de témoigner au procès. Pour quelle raison ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Il y a sans doute déjà une part de déformation professionnelle, puisque je suis juriste en entreprise. Le droit, la justice, le judiciaire, c'est un environnement dans lequel je baigne quotidiennement. Et quelque part, c'est rassurant. Quand je lis le dossier, quand je lis les pièces...
Combien de pages, le dossier ?
Alors... C'est colossal, le réquisitoire fait quelque chose comme 400 pages. J'ai mis plusieurs semaines à le lire par petits bouts, parce que ce n'est pas un document qu'on lit le soir avant de dormir. Ça prend un temps fou de le lire et de tout comprendre. Et pour moi, c'est la façon dont les faits sont qualifiés dans les pages du dossier, c'est quelque chose de rassurant et de familier, mais c'est vraiment très personnel. C'est lié à une forme de déformation professionnelle. Et du coup, aller témoigner, ça s'inscrit dans cette démarche. C'est « je suis victime d'un acte terroriste. En tant que victime, je me dois d'aller témoigner, d'aller raconter ce qui est arrivé dans la salle du Bataclan. Également, les conséquences. Les conséquences. Et l'idée, c'est d'aider les juges à prendre connaissance et conscience de la gravité, des faits tels qu'ils ont été commis dans la nuit du 13 au 14, et deux, des conséquences pour les victimes. Enfin, en l'occurrence, moi, je parlerai que pour moi, mais l'idée, c'est ça, c'est que les juges se rendent compte que les conséquences sont malheureusement dramatiques et ça les aidera dans leur prise de décision.
Très concrètement, témoigner devant les accusés, comment vous y pensez à ça ?
Alors, dans un premier temps, j'espérais un jour avoir l'inspiration et de trouver la punchline définitive pour les anéantir devant la cour et devant tout le monde, devant la presse. C'était le truc, je trouverais la phrase. Je sais que je peux être très cassant dans ma vie personnelle, et c'était l'espèce de truc dont je rêvais. Mais en fait, non, ça vient pas, et puis ça me semble assez dérisoire, et finalement, je suis assez indifférent à l'égard de ces personnes. J'espère vraiment qu'ils prendront une peine à la mesure de la gravité des agissements dont ils sont reconnus les auteurs. Ça, c'est certain. Mais là, j'en parle aujourd'hui. On en reparlera le jour de l'audience, mais je ressens aucune émotion à l'idée d'anticipation, à l'idée d'être dans la même pièce que ces 14 accusés. Effectivement, il y aura Salah Abdeslam qui est un peu très mis en avant, mais c'est pas forcément lui le plus dangereux. Il y en a d'autres qui ont des profils extrêmement inquiétants. Et non, je ressens pas d'émotion particulière. Ils seront dans le box, pour la plupart en tout cas. Et pour avoir visité la salle d'audience, je sais que je ne les verrai pas au moment du témoignage. Ils seront légèrement en retrait, mais je pense que je pourrais pas m'empêcher de les regarder pour voir à quoi ils ressemblent en vrai, pour voir comment ils bougent, pour entendre leur voix. Ça me semble important parce que ça va les rendre triviales. Là, pour moi, ces gens-là, Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Oussama Krayem, c'est des noms dans un dossier. Je ne les ai jamais entendus parler, je ne sais pas comment ils bougent, je ne sais pas comment ils se tiennent. Et le fait de les voir, d'ailleurs, aux audiences, hein, ça m'aidera un petit peu à appréhender la préparation de ces attaques et qui sont ces gens, d'où ils viennent. Mais je n'ai pas d'appréhension particulière à l'idée d'être dans la même pièce que ces gens-là.
Vous témoignez au procès du 13 novembre. Et vous avez également participé à un programme, 13 novembre, des vies plus jamais ordinaires, un programme auquel la Marche du Monde est associée, un programme dirigé par Christian Delage de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Donc c'est deux témoignages à deux moments de votre vie.
Oui, et je me rends bien compte qu'ils seront déjà différents. Alors j'essaie de ne pas trop penser aux témoignages que je vais donner dans quelques semaines, pour garder de la spontanéité. Mais je sais déjà qu'ils vont être différents dans la mesure où, un, je vais me forcer d'être plus bref. Je sais que j'ai parlé très très longuement à Christian Delage et Elisabeth Claverie. Et j'avais beaucoup parlé du contexte des attaques. Je me souviens que j'avais beaucoup parlé des attaques de janvier 2015, de mon état d'esprit quand on arrive en novembre 2015. Alors, mon témoignage, je l'ai donné à Christian Delage en octobre 2016. Et je crois me souvenir que j'avais assez peu parlé des conséquences sur ma vie personnelle de ces attaques. Ou du moins de façon incomplète, puisque finalement, les conséquences sont les mesures que, au fur et à mesure du temps qui passe. Et là, j'ai l'impression que le témoignage que je vais livrer à la cour, il sera bien plus factuel. Il va commencer le 13 novembre 2015, je vais à un concert, il se passe ça. Et ensuite, maintenant que j'ai plus de recul sur ma situation actuelle et sur les conséquences de ces attaques sur ma vie, sur ma santé, je pense que je parlerai un peu plus de cela. Je pense que ça va être deux témoignages qui vont se compléter.
Donc pour ce qui concerne Thibault Morgan, c'était Elisabeth Claverie qui s'en est chargée. Et en fait, elle a posé une première question qui était purement introductive et Thibault a développé son témoignage pendant une heure sans s'arrêter.
Christian Delage, historien, cinéaste et directeur de l'IHTP.
On peut imaginer que de même qu'il a préparé très minutieusement, non pas le témoignage qu'il nous a donné, mais son autorécit qu'il a construit au fil des semaines, et donc on peut supposer qu'il va se préparer de manière tout aussi minutieuse pour délivrer son témoignage à la barre. Il n'est pas autorisé normalement à le lire, donc il va le mémoriser. De manière à peu près certaine, il ne va pas dire la même chose que ce qu'il nous a dit, puisque nous, il nous a parlé en mars 2016. Là, il va parler en octobre 2021, avec toute la conscience de l'enjeu que représente le procès, le fait qu'il y a 134 médias qui sont présents, que ses paroles vont être prises le soir, etc. Donc nous nous apprêtons en fait à, s'ils en sont d'accord, à filmer les témoins qui vont être appelés à la barre le soir même du jour où ils sont appelés à témoigner.
Nous sommes sur le parvis de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, où Christian Delage vient de remettre officiellement l'ensemble de ses 20 témoignages filmés, dont celui de Thibault Morgan. Sa démarche, menée en partenariat avec l'Université Paris Lumière, l'Université Paris 8 et le CNRS, est non seulement universitaire, mais aussi mémorielle et patrimoniale, puisque le dépôt à la BNF a été envisagé dès l'origine.
C'est vrai que ce n'est pas une démarche habituelle de créer soi-même en tant qu'historien de l'archive, puisqu'en général, au contraire, on va chercher les archives là où elles sont conservées parce que, par leur statut administratif ou politique ou autre, elles sont conservées et donc accessibles. Donc là, on crée une archive. Alors, si on crée une archive, ce n'est pas dans l'idée que c'est quelque chose qui va être entreposé dans un endroit et qui va un peu dormir jusqu'à ce que des gens viennent pour les consulter. Mais on crée au fond quelque chose qui est actif et qui peut, donc dans le moment même de l'entretien, mais aussi après coup, tisser des liens entre les personnes selon la volonté de chacun ou chacune d'entre elles.
Quel sens a pour vous cette donation ici à la bibliothèque François Mitterrand?
Dès le départ, nous avions prévu de déposer ces témoignages à la Bibliothèque nationale de France, car c'était aussi une manière de conforter nos témoins dans l'idée que ce qu'ils allaient nous dire allait à la fois garder une certaine forme d'intimité dans le moment où ils nous ont donné leur témoignage et en même temps être conservé de manière pérenne dans une institution patrimoniale qui évidemment veillera à qui va venir écouter ces témoignages ou les voir.
Et en quoi le 13 novembre pourrait être un procès historique, justement dans le cadre de la loi Badinter, en étant filmé, puisque vous avez participé au cahier des charges qui établit la façon de filmer le 13 novembre?
Ce procès, on peut le qualifier bien sûr d'historique par rapport à l'ampleur de l'événement qu'ont représenté les attentats de novembre 2015, et aussi par l'énormité d'un dossier. Je veux dire, c'est un dossier considérable que les juges ont établi, par la présence des parties civiles, 1800, par le nombre d'avocats, etc., etc. C'est-à-dire, on voit bien là, à travers cette mobilisation énorme, que la société va être quand même représentée, disons, dans ce qui va se passer là, quoi. Et donc, forcément, là, la dimension historique, ce serait presque une dimension sociale. Après, cette dimension-là, c'est mêlé avec une deuxième dimension qui est que le procès est filmé, et il est filmé pour l'histoire. Très concrètement, ça veut dire qu'il n'est pas filmé pour être montré immédiatement, mais qu'il est filmé pour être archivé. Et une fois que le procès est entièrement terminé, les appels terminés, etc., les chercheurs peuvent y aller, les professionnels, en demandant une autorisation. Et ensuite, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans. Enfin, c'est les délais habituels des archives.
C'est le procès des accusés, des personnes qui sont accusées d'avoir commis les attentats du 13 novembre 2015. Et j'attends avec impatience de savoir comment la justice va qualifier ces faits.
Thibaut Morgan, membre de l'association 13-11-15.
Mais je ne m'attends pas à avoir une sorte de révélation à la fin de l'audience. Il n'y aura pas de morale de l'histoire, il n'y aura pas de... C'est eux qui vont être jugés, et l'objectif, c'est de les mettre en prison, de protéger la société, quoi. C'est de les gens qui seront connus comme auteurs seront mis en prison. Et il est super important que les victimes soient entendues lors de ce procès, pour qu'on mesure toute l'horreur de cette nuit, et les conséquences qui durent pour les proches et pour les victimes.
Est-ce que vous pensez que ça va vous faire du bien?
Non. Alors, à titre personnel, sur le fait de témoigner, je n'attends rien de particulier. C'est juste, ça me semble logique d'y aller. Je ne m'attends pas à vivre un soulagement particulier à l'issue de ces 9 mois de procédure. Une fois encore, c'est vraiment très, très personnel. Je pense qu'il n'y aura jamais d'apaisement par rapport à ça. Et je pense que j'ai commencé à respirer le jour où j'ai compris qu'il n'y aurait pas d'apaisement et qu'il fallait que je m'adapte en conséquence. Et une fois encore, ce procès qui arrive, c'est extrêmement important. Ça va être un très, très grand moment de démocratie. Mais moi, en tant que victime, à titre personnel, c'est pas quelque chose que j'attends pour ma reconstruction. Ça les regarde, eux. Et il est extrêmement important que les victimes parlent, hein, vraiment. C'est très, très bien. Il y aura 5 semaines qui vont être consacrées à la parole des victimes et de leurs proches. Ça va être très long, ça va être très, très difficile. Mais moi, la victime de terrorisme, non, je m'attends pas à ce que cette décision de justice me fasse du bien.
Et par contre, en tant que citoyen, pour vous, il est fondamental que ceux qui donnent la mort soient jugés non pas avec une peine de mort, mais par un procès, avec une peine qu'on espère juste, parce qu'on est en démocratie.
Oui, exactement. D'ailleurs, je suis super satisfait de voir que Salah Abdeslam va être défendu par une avocate. En plus, il paraît qu'elle est brillante, parce que déjà, c'est un homme qui ne finira pas en martyr de sa religion. Et en plus, il finira pas en martyr judiciaire. Ça, c'est le truc qui me soulage. Parce que c'était vraiment une source d'angoisse pour moi de me dire que il va pas être défendu, parce que c'était parti pour. À une époque, il a récusé son avocat. Enfin, Franck Berton, il y avait eu 2 avocats, l'avocat Sven Marie et Franck Berton. Il y en a un qui s'est récusé, l'autre qui a été renvoyé, enfin, je sais plus. Et je me disais, voilà, il va venir à l'audience, il va faire sa petite propagande, il va reconnaître comme seule justice la justice de Dieu ou je ne sais quoi. Et là, le fait qu'il prenne un avocat, ça veut dire que, bah, déjà, c'est une défaite pour lui. C'est que, bah, il se soumet à notre démocratie. Et il va être défendu. parce que moi, quand j'ai le dossier, je trouve ça accablant. Et je suis curieux de voir comment il sera défendu. Et je vois vraiment ça avec curiosité. Hein. Et j'espère que ça vexera personne que je dise ça. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on défend quelqu'un qui a mouillé le maillot à ce point pour que ces 131 personnes soient assassinées. Mais voilà, il ne sera pas martyr judiciaire. Et ça, c'est très, très bien. Et c'est valable pour tous les autres accusés. Hein. Le fait que la justice soit rendue sereinement. Et j'espère que les débats seront sereins. Et d'ailleurs, je suis un peu inquiet puisque, sur ce sujet-là, parce que on va rentrer en pleine campagne d'élection présidentielle en France. Et il y a toujours eu beaucoup de récupérations politiques au sujet des attentats dès le 15 novembre 2015. Hein. Et quand je vois le cortège d'hommes politiques et de femmes politiques qui s'apprêtent à défiler devant la cour d'assises, moi, ça, c'est une position personnelle, mais je ne comprends pas l'intérêt de leur témoignage. J'ai toujours peur que ce soit une espèce de service après-vente pour expliquer aux victimes on a fait de notre mieux et moi aussi je suis meurtri dans ma chair et moi ça me gêne énormément. Ils n'étaient pas présents sur les terrasses, ils n'étaient pas présents au Bataclan. Ceux qui peuvent témoigner pour moi c'est ceux qui étaient présents ou ceux qui ont connu les auteurs, qui auront des choses à dire sur le profil des auteurs. Mais là, pour moi, j'y vois une forme de récupération politique. Et moi, à titre personnel, c'est quelque chose qui me met extrêmement mal à l'aise.
Thibault Morgan, vous avez donc témoigné deux fois au sein de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Et puis, bien sûr, dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre. Donc, une démarche doublement historique. Vous savez que vos témoignages sont archivés.
Oui, alors c'est une chose à laquelle je m'efforce de pas trop penser, le fait que le procès sera filmé. C'est une très très bonne chose. Enfin, je crois que c'est vraiment le moment où il va falloir être exemplaire. Alors, je parle pas des victimes. Quand je dis on, c'est la société française. Les victimes, elles se comporteront comme elles peuvent se comporter. Tout le monde fera de son mieux. Mais je pense que la justice, en tant qu'exercice démocratique, devra être exemplaire. Et le fait que le procès soit documenté de manière exhaustive, c'est l'occasion de garder une trace de ce qu'on a été capable, en tant que société, de réagir dignement et sans concession à l'égard de nos valeurs face à cette barbarie. Hein. Voilà. C'est les personnes qui vont être jugées, elles, se sont complètement affranchies de ces règles. Puis nous, la société française, nous sommes capables de montrer que nous vivons dans un cadre qui est bien plus fort que leurs agissements. Home alone and happy.
Nothing brings me down. Merci Thibault.
Merci à vous. Full of wine and steady.
Nothing brings me. Ainsi s'achève cet épisode documentaire de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Michael Goncalves, avec Simon Buil-Baudin et Michael Fitzpatrick. 11 septembre, 13 novembre, des vies plus jamais ordinaires, est à réécouter en podcast et à tout moment sur notre appli RFI Pure Radio et les autres plateformes de podcast. Retrouvez plus d'informations sur la page de La Marche du Monde, sur rfi.fr. Exprimez-vous sur nos réseaux sociaux. Cette émission, c'est la vôtre.